réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous vous réveillez, merci d'avoir choisi Un autre jour est possible, votre réveil culturel sur France Culture en ce mardi 31 mai. Vous le savez, le week-end prochain, le Centre Pompidou et France Culture organisent un week-end. C'est un festival manifeste, c'est le week-end de la création et des idées, avec des concerts, des rencontres, des débats, des questionnements autour de la place de la culture dans une société moderne, la France en particulier. Avec beaucoup d'invités, on vous en parlera tout le long de cette semaine. Et si vous êtes de passage à Paris ou si vous êtes parisien, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et pour préparer ce week-end Imagine, depuis hier, Jérôme Clément est avec nous pour nous parler de la culture. Pourquoi la culture aujourd'hui? Quels sont les enjeux cruciaux à une année des élections présidentielle. En deuxième partie, je serai avec Muriel Mayette qui, elle, dirige une institution, la Villa Médicis à Rome. C'est quoi le rôle de la Villa Médicis? C'est quoi le rôle d'une femme comme Muriel Mayette? Elle sera avec nous aux alentours de 6h15 et répondra à nos questions. Merci d'être avec nous. La culture, une affaire cruciale, deuxième épisode avec Jérôme Clément, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui on va parler, on va esquisser avec vous un passage en revue des programmes culturels du général de Gaulle jusqu'à François Hollande. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces programmes culturels, de tous ces ministres qui se sont succédés depuis la fin de la Deuxième Guerre?
Ah bah c'est formidable comme question, parce que ça va m'obliger à passer en revue un petit peu tout ce qui s'est fait. Je commencerai par dire que l'idée de créer un ministère de la culture, elle a été mise en œuvre par le général de Gaulle de façon pérenne en 1959, mais il y avait eu des tentatives précédentes. Il y en avait une sous la Seconde République, qui était présidée par Lamartine, comme vous le savez, et sous Gambetta, sous la Troisième République, et enfin, en 1947, il y a eu un éphémère ministre, je ne sais plus comment il s'appelait. D'ailleurs, le choix du nom est aussi très important. Affaires culturelles, artistes, il y a eu beaucoup de propositions autour de la création de ce ministère. Enfin, en tout cas, quand Malraux l'a créé, quand De Gaulle l'a créé, et vous savez comment ça s'est passé, c'est amusant, parce qu'il a dit à Michel Debré, qui était Premier ministre, Debré, rassembler un peu tout ça et créer un ministère d'affaires culturelles qu'on pourrait confier à André Malraux. Alors il a pris le secrétariat d'État aux Beaux-Arts, il y a adjoint le cinéma qui était au ministère du Commerce et de l'Industrie, je crois qu'il y avait encore une direction des archives qui se baladait quelque part, et ils ont décidé ils l'ont appelé ministère des affaires culturelles. Et voilà. Malraux et De Gaulle, c'était une idée de l'essentiel, c'était la grandeur de la France. De Gaulle incarnait la grandeur de la France, et il avait dit en 1943 à Alger, lors du 60e anniversaire de l'Alliance française, la France a résisté par la force de ses armes et la puissance de sa pensée. Donc pour lui, c'était très important, l'armée et la pensée. Il a dit à l'Alliance française, ce qui me fait plaisir puisque je suis président actuellement, mais il l'a montré ensuite dans tous les domaines. C'est lui qui a créé la Direction Générale des Relations Culturelles au Quai d'Orsay, et le ministère des Affaires Culturelles correspondait à ça. Et il disait de Malraux, sa présence à mes côtés pendant le Conseil des ministres m'élève la pensée des affaires quotidiennes. Donc il avait en haute estime Malraux, mais la grandeur de la France pour lui c'était ça. Et finalement, c'est ce qu'il a demandé à Malraux de faire. Il lui a donné quelques moyens, et il y a eu toute une politique, notamment illustrée par la création des maisons de la culture. Chez Malraux, c'était une sorte de spiritualité. La culture était une religion laïque. C'était un moyen de transcender les époques, de transcender aussi la mort, pour s'élever dans l'art qui traverse non seulement les frontières, mais traverse les temps et permet d'accéder à une sorte de nirvana, quoi, nirvana spirituel, artistique. C'est une conception, et pour laquelle il ne fallait pas d'intermédiaire. Donc c'est la question de la médiation, il la rejetait. Il fallait un contact direct avec l'œuvre.
Est-ce que Malraux va marquer tous les ministres de la culture qui vont lui succéder ?
Oui, parce que c'était un grand écrivain, un immense personnage comme De Gaulle, et que il est resté 11 ans, donc et ses discours fameux sur l'art, aussi le discours qu'il a prononcé lorsque Jean Moulin est entré au Panthéon, ont marqué les esprits. Moi, j'étais enfant, je l'ai entendu une ou deux fois, ça me frappait énormément d'entendre cette voix sépulcrale qui disait des choses aussi intelligentes que je comprenais pas tout à fait, sauf que je comprenais que c'était important. Mais alors après lui, après Malraux, il y a eu une continuité. On peut dire que Pompidou a été un très bon continuateur de l'œuvre de Gaulle, parce que lui-même était normalien, il avait écrit l'anthologie de la poésie française, il s'intéressait beaucoup à la poésie et à l'art contemporain. Il avait confié à Paulin notamment et à Agam le soin de refaire les affaires de l'Élysée, donc des grands décorateurs, des grands artistes. Il pouvait citer Éluard dans une conférence de presse pour illustrer un propos. Enfin, c'était un homme lettré, quoi. Et d'une certaine façon, même si sa politique a été assez conservatrice, il y a eu cette continuité avec Edmond Michelet, avec un certain nombre de ministres qu'il a eu plus ou moins bons, mais en tout cas qui ont poursuivi cette politique.
Bah oui, c'est ça qui est intéressant dans votre livre d'ailleurs, L'urgence culturelle, Jérôme Clément. Parce que c'est quoi un bon ministre de la culture ? Est-ce que c'est quelqu'un qui incarne la culture ? Et vous rappelez cette phrase du général de Gaulle à Debré en lui disant « Mais prenez Malraux, il donnera de l'éclat à votre gouvernement. » Donc c'est quelqu'un qui incarne, qui est cultivé, ou c'est quelqu'un qui a une politique culturelle ?
Bah, s'il a les deux, c'est mieux.
Ouais, c'est quoi le plus important, puisque c'est une question d'actualité, hein.
Oui, bien sûr.
Vous n'êtes pas sans savoir toutes les critiques qu'on a formulées à Fleur Pellerin, l'ex-ministre de la culture.
Oui. Bon, moi, j'ai pas envie de personnaliser les débats, mais.
Mais un bon ministre de la culture, c'est quelqu'un qui a de la culture, ou c'est quelqu'un qui a des idées pour populariser la culture, pour préserver le patrimoine?
Mais je pense pas qu'on puisse dissocier l'un de l'autre. Je pense pas qu'on puisse avoir des idées sur la culture si on n'a pas soi-même un fort bagage culturel. C'est quand même compliqué. C'est des domaines sur lesquels il faut s'intéresser à la lecture, au cinéma, à la musique, enfin un peu à tout, et pouvoir dialoguer avec des artistes et pouvoir ensuite en retirer l'idée de ce qu'il faut faire. Donc je crois pas qu'on puisse être l'un sans l'autre. Et aussi, c'est un ministre, évidemment, qui trouve les moyens de sa politique. Donc Jacques Duhamel, qui ensuite a été ministre sous Pompidou, justement, a été un bon ministre pour ça, parce que c'était un homme politique puissant, mais en même temps, il connaissait bien la culture, il s'y intéressait. Il a eu des idées sur le développement culturel. Il avait aussi un très bon directeur de cabinet, Jacques Rigaud, qui a eu un rôle très important dans toute cette période, aussi bien en direction des artistes que dans l'épanouissement, dans la création d'un tissu culturel, les centres dramatiques nationaux, le fonds d'intervention culturelle, pour irriguer un peu le territoire et pour faire que ça descende un peu partout, et qu'il y ait aussi des actions qui soient menées par les collectivités locales. Donc je crois qu'un bon ministre, c'est quelqu'un qui a des idées, qui connaît bien les choses et qui est capable aussi de se battre politiquement pour obtenir des crédits. Il faut qu'il ait le soutien du président. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un président engagé dans la vie politique sur la culture, c'est évidemment un handicap. Et on peut dire que on a pu se poser la question, par exemple, avec Giscard d'Estaing, dont on ne souhaitait pas forcément, a priori, la caractéristique première. Mais malgré tout, il a fait un très bon choix avec Michel Guy. Michel Guy a été un excellent ministre. On a eu des inquiétudes puisqu'il l'a nommé secrétaire d'État. Donc on avait l'impression que c'était un peu un ravalement de priorité. Mais non, en fait, Michel Guy, qui était horticulteur, donc c'est ça, pour ça que c'était intéressant aussi, parce que c'était un homme très cultivé, un type qui connaissait très bien les artistes. Il avait un goût très sûr, un jugement extrêmement précis sur ses choix de personnes. Il a été un excellent ministre de Giscard d'Estaing pendant 2 ans. Et bien qu'étant resté assez peu et n'ayant été que secrétaire d'État, il a marqué la décennie. Donc c'est très important. Puis il y en a d'autres qui sont passés, on les a vus passer, on n'a rien retenu de ce qu'ils ont fait, comme Françoise Giroud, par exemple, ou Jean-Philippe Leca un petit peu sur le patrimoine, ou d'autres qui ont Alain Perfit, qui ont été des ministres éphémères, quoi. Voilà, ou Maurice Druon, qui était un homme très protocolaire, qui s'intéressait plus au patrimoine qu'à autre chose, et aux usages qu'à la pratique. Et voilà, donc je pense que il y a eu, avec des personnages très différents, une certaine continuité, mais vous incarnez quand même par une volonté présidentielle. Et par l'idée, que je rappelais tout à l'heure, ou hier, que la France se fait de la place de la culture dans la société. Et ça, je pense que c'était très important. Et puis, il y a eu 81. Et en 81, on a un président très cultivé, qui s'intéresse énormément à la culture, beaucoup plus qu'à l'économie, qui aime beaucoup discuter avec les écrivains, avoir des artistes, etc. François Mitterrand, et qui trouve avec Jacques Lang un parfait complément de sa volonté politique. Et là, il double les crédits du ministère en un an. À doubler le crédit d'un ministère, aujourd'hui où on fait des économies de 5% par an, on voit ce que ça peut représenter à l'époque. Et puis, qui crée le prix unique du livre pour qu'on puisse trouver tout, qui crée la possibilité d'avoir des radios libres, qui développe dans tous les domaines une activité énorme, qui crée les fonds régionaux d'action culturelle pour les arts plastiques, qui donne des moyens complémentaires, qui lance les grands travaux, qui expulse le ministère des Finances du Louvre. Enfin bon, ça a été une effervescence culturelle considérable sous la gauche. Donc d'une certaine façon, on voit d'un côté De Gaulle, pour lui c'était la grandeur de la France, de l'autre, François Mitterrand, qui dit « Mon projet, le projet socialiste est d'abord un projet culturel », donc c'est dire à quelle place il tenait la culture dans sa politique, et qu'il met en œuvre. Il ne contente pas de le dire, il le fait. Et il le fait pendant pratiquement 14 ans. Donc c'est pas rien, quoi. Donc ça a compté dans l'histoire de France. Malraux a beaucoup compté, mais c'est vrai que Jacques Lang a beaucoup compté. Ce sont les deux auxquels on fait référence le plus. Mais moi, j'ai rajouté Michel Guy à la liste parce que je pense qu'il a été très bon. Et puis, quelques autres qui sont en général restés trop peu de temps. Il y a ça aussi, la longévité, quoi. Il faut du temps pour impulser une politique. Ces ministres qui restent 6 mois, 1 an et puis qu'on change, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut rien faire en 6 mois, 1 an. 1 an et demi, c'est rien du tout à l'échelon d'une politique. Donc, voilà, il faut avoir des idées, une forte conviction, une volonté. Et du temps. Et à ce moment-là, on peut commencer à faire quelque chose.
Alors, faire quelque chose, est-ce à dire qu'il y a une politique culturelle de droite et une politique culturelle de gauche en France, Jérôme Clément?
Oui, on peut dire. Les exemples que j'ai prouvés montrent que faut pas être manichéen dans ce domaine. Michel Guy, encore une fois, a été un très bon ministre et il était ministre d'un gouvernement de droite. Animé par Jacques Chirac à l'époque et ensuite par Raymond Barre. Bon, mais en même temps, on peut dire que la droite, traditionnellement, disons, c'est des schémas un peu manichéens, mais est plus sensible à la protection du patrimoine, conservatrice aussi, voilà, de ce qui existe, peut-être moins audacieuse sur le plan de la création, et que la gauche est plus du mouvement du progrès et de la démocratisation et de la possibilité d'aller vers les couches populaires. C'est ce qu'a fait le Front Populaire, par exemple. On en parlait tout à l'heure, ou Jeanne Laurent, ou le Parti Communiste.
Mais comme il faut les deux, c'est une très bonne distribution des tâches, non?
Oui, alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on voit quand même des hommes de droite qui sont sensibles à la création et à la distribution de la culture et à sa diffusion vers les couches populaires. Et on voit des hommes de gauche qui sont extrêmement attentifs à la protection du patrimoine. Donc, je suis un peu schématique en disant ça, et j'en suis conscient. Mais on peut dire que c'est un peu ça. Mais une bonne politique, évidemment, fait les deux. Il faut évidemment protéger le patrimoine et évidemment soutenir les créateurs et s'occuper de la diffusion auprès des couches. Il faut être audacieux. Alors, c'est vrai que Druon disait une phrase célèbre, les artistes, oui, ils viennent me voir avec une sébille d'un côté et un cocktail Molotov de l'autre. Bah oui, mais d'une certaine façon, c'est la fonction des artistes, quoi. Ils ont besoin d'argent pour vivre, mais ils contestent l'ordre dans lequel ils sont. Et tant mieux, ils sont très utiles à la société pour ça.
Mais est-ce que c'est toujours évident, justement? Non. Vous qui avez été à la tête d'Arte, Jérôme Clément, est-ce que c'est toujours facile de faire la part des choses?
Ben non, c'est évidemment pas facile, parce qu'il faut accepter des gens qui vous contestent. C'est pas toujours agréable. Et puis, faut faire des choix, et les choix sont toujours difficiles. On peut pas dire oui à tout le monde. Moi, une de mes difficultés, et celle de mes collaborateurs encore plus, quand j'étais à Arte, je me souviens de Pierre Chevalier, par exemple, qui était directeur de la fiction. Qui a travaillé dans cette maison,
des documentaires. Et qui a laissé des bons souvenirs, s'il nous écoute, etc.
C'est un homme remarquable, à qui Arte doit beaucoup, et moi aussi. Et quand il est parti, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'en vas? Et Pierre, t'as fait un boulot formidable. Et il m'a dit, mais j'en avais assez de dire non. Et c'est vrai qu'on passe son temps à dire non à des projets, à des idées, à des gens qui viennent vous voir avec des idées formidables. On ne peut pas tout faire. Donc c'est sur quels critères on choisit. Donc ça, c'est des questions douloureuses, quoi.
Bon, alors pour répondre à cette question,
il y a une part de subjectivité,
mais pour répondre à cette question, à quel moment l'équation culturelle a-t-elle été reprise sous le prisme économique, c'est-à-dire l'argent, le budget à respecter, le rendement, la nécessité pour les œuvres d'art de ne pas être à 100% subventionnées, qu'elles puissent elles-mêmes participer à l'économie. C'est à quel moment qu'il y a eu cette bascule, Jérôme Clément?
De certaine façon, le problème de l'argent et de la place de l'argent dans la culture, il a toujours existé. C'est pas vraiment une nouveauté. Malraux disait du cinéma, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Et dans l'industrie, il y a une part d'argent. Mais évidemment, le problème s'est aggravé beaucoup depuis quelque temps. C'est la raison qui m'a poussé à écrire ce livre. Si j'ai écrit L'urgence culturelle, c'est parce que je trouve que c'est un énorme problème aujourd'hui, enfin gravissime à mes yeux, à cause du libéralisme échevelé dans lequel on se trouve, la finance et l'économie envahissent toute la sphère de la société, toute la sphère de réflexion de la société, et qu'on ne parle plus qu'économie, on ne parle plus que finance, on entend parler de ça toute la journée, et on considère toutes les activités humaines, y compris la culture, comme un moyen et non pas comme une fin, comme un paramètre, une variable d'ajustement et non pas comme une fin. Et moi, ça m'est fichu en rogne de voir, de lire ces rapports dans lesquels on disait la culture, c'est tant d'emplois, c'est tant de produits intérieurs bruts, etc. Et évidemment qu'on est content que la culture crée des emplois et rapporte de l'argent aussi, mais il faut pas voir ça comme ça, quoi. On peut pas voir cette réflexion, cet imaginaire commun ramené à une équation de chiffres. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc ça s'est passé quand? Je sais pas si on peut le dater, mais on a vu une dérive progressive depuis, je sais pas, mettons une dizaine d'années, quoi. Peut-être, moi je le date. En réfléchissant dans mon bouquin, je parle de 2003, la grande grève des intermittents, l'arrêt du Festival d'Avignon. C'est vrai que quand à cause des intermittents et de l'incapacité collective à résoudre ce problème qui au fond pose la place des artistes et de tous ceux qui créent dans la société, il y a eu une rupture. Quoi. On s'est dit, tiens, là il y a quelque chose qui va pas. Arrêter le Festival d'Avignon, c'était très symbolique. Quoi. Donc ça posait un problème. Et puis ensuite, c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, on a vu d'un seul coup, même s'il a pas trop touché au crédit, qu'il y avait un monde différent qui était en train d'apparaître et que la place de l'argent prenait une place trop forte, quoi, insupportable.
Mmh. Et aujourd'hui?
Parce que tout le monde s'est dit, au fond, Sarkozy, c'est un accident, quoi. C'est une droite, comme on la connaît, qui est parfois méprisante, pas forcément intelligente, ce qui n'était pas le cas de celle de Gaulle et de Malraux, par exemple, et qui avait une certaine vulgarité qu'on pouvait pas accepter. Et on s'est dit, quand la gauche va revenir, ça va être formidable, quoi. On va revenir aux fondamentaux. Et puis, on n'y est pas revenu, puisque les crédits ont continué à diminuer, et qu'on a vu, en fait, la politique culturelle se déliter, en tout cas, pas reprise comme elle aurait dû l'être, au centre d'un projet de société, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Parce que l'homme, c'est pas seulement un producteur, un épargnant ou un consommateur. C'est aussi un roseau pensant. Et c'est d'abord quelqu'un qui a des aspirations qui sont pas seulement matérielles. Et la gauche était là pour ça, elle l'a pas fait. À mon avis, sous la pression principalement du temps, quoi, c'est-à-dire de l'époque dans laquelle on se trouve, la crise économique de 2008, la pression des marchés, l'incapacité à raisonner politique autrement qu'en termes économiques puis sécuritaires. Il n'y a plus de place pour la culture. C'est ça qui ne va pas.
La culture, une affaire cruciale avec Jérôme Clément. On continue toute cette semaine à parler des enjeux culturels. On se retrouve demain pour le troisième épisode. À demain, Jérôme Clément.
France Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Muriel Mayette. Bonjour Muriel Mayette.
Bonjour.
Et bien avec vous, on va parler de la Villa Médicis d'aujourd'hui, puisque vous êtes directrice de l'Académie de France à Rome, c'est comme ça que ça s'appelle, depuis septembre 2015.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle programmation y a-t-il dans cette Villa Médicis? Et est-ce que ce lieu est toujours un lieu stratégique dans la capitale italienne?
Ah, c'est un lieu symboliquement toujours aussi important, qui représente l'excellence de la culture française. Aujourd'hui, dans nos murs, on a une exposition de Yan Penming, ce peintre merveilleux qui est un ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome. Et le commissaire de cette exposition est lui aussi un ancien pensionnaire, c'est Henri Loirette, ancien directeur du Louvre aussi. Et cette exposition est sur le thème de Rome vue par Ming. Et c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les anciens pensionnaires, puisque nous fêtons actuellement les 350 ans de l'Académie de France à Rome. Et toute l'année, on mettra à l'honneur tous les pensionnaires qui ont animé durant 350 ans cette merveilleuse maison.
Enfin, ceux qui sont en vie, ou tout le monde, vous allez rendre hommage à tout le monde?
On va rendre hommage à tout le monde parce que à la rentrée, d'abord il y a le théâtre des expositions qui est en fait l'exposition de la promotion de cette année qui va commencer le 30 juin et qu'on pourra voir à Rome jusqu'à fin août et que je ramènerai à Paris à l'automne. Et nous, à Rome, nous allons proposer à partir d'octobre prochain une exposition sur les 350 ans de talents qui ont animé l'Académie de France à Rome. C'est la raison pour laquelle je disais tous, même ceux qui sont morts, on va les mettre à l'honneur.
Et tout art confondu, bien sûr.
Absolument, parce que à l'origine, en 1666, le 11 février 1666, lorsque Colbert a signé l'ouverture de l'Académie de France, on abritait d'abord les artistes étaient envoyés à Rome pour copier les artistes romains et ramener en France les mêmes richesses. C'était une volonté de Louis XIV. Aujourd'hui, il n'y a pas que des peintres ni que des sculpteurs. Toutes les disciplines sont abrités dans ces murs et les pensionnaires y sont abrités pour une année avec une bourse à peu près de 3300 euros par mois.
Donc il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus, ça reste quand même un endroit où les artistes veulent aller pour produire, pour s'éloigner un peu peut-être de la France, pour avoir juste la distance qu'il faut et continuer à créer, ou juste pour découvrir Rome d'ailleurs, comme à l'époque de sa création.
En fait, il y a deux dimensions, je crois, à cette volonté de faire partie de cette grande famille. La première, elle est la possibilité de prendre le temps pendant une année, de s'adonner à son propre travail, ce qu'on appelle l'inspiration, le temps de la réflexion, de l'errance, de la désobéissance. Et la deuxième chose, avec Rome bien sûr, mais c'est la possibilité d'être ensemble avec d'autres solfèges. C'est la possibilité de croiser un plasticien, un musicien et de s'enrichir par la fréquentation des autres artistes.
mais finissent par produire ensemble ou...
Absolument, puisque cette exposition qui va commencer le 30 juin, ce qu'on appelle chez nous le théâtre, c'est le fruit de la rencontre de tous les pensionnaires. Alors par exemple, il y a des auteurs qui vont travailler avec des plasticiens, il y a des cinéastes qui vont filmer le travail des illustrateurs, etc. Et en fait, cette exposition, elle est vraiment le fruit de la rencontre.
Est-ce que ces artistes représentent pour les Italiens, ou du moins pour les Romains, la culture française ?
Elles représentent la grande culture française et surtout les artistes qui vont compter demain. Actuellement, nous avons l'exposition de Ming. Ming est un des plus grands peintres aujourd'hui dans la création contemporaine. Et l'Académie de France ne peut que s'enorgueillir de l'avoir abrité pendant une année, tout comme Henri Loirette, qui a passé 2 ans en tant qu'historien d'art. Puisqu'il ne faut pas oublier, on abrite aussi des historiens d'art, donc de la recherche.
Et des écrivains, et des metteurs en scène, et des musiciens.
Toutes les arts de la création sont potentiellement abrités dans ces murs. Mais il n'y a que 14 bourses. Parfois, ce sont des binômes qui se présentent. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont 16 pensionnaires pour 14 bourses. Mmh. Donc évidemment, on peut considérer que c'est la grande élite des créateurs de demain.
Quel est votre travail en tant que directrice de l'Académie de France à Rome, Muriel Mayette? Est-ce que vous initiez des projets? Vous programmez une saison artistique et culturelle dans les murs ou en dehors de la villa? Qu'est-ce que vous faites au juste?
Alors en fait, j'ai plusieurs missions. J'ai 3 missions. La mission dite Colbert, qui est d'accueillir ces pensionnaires, donc de les recruter et de leur permettre de travailler. Ce qui n'est pas simple, parce qu'étant donné l'évolution de la création aujourd'hui, les moyens sont pas toujours adaptés au niveau de l'espace ou des instruments. Je pense au numérique, je pense aussi aux collaborateurs nécessaires à la création, par exemple, dans les arts du spectacle, pour les metteurs en scène, par exemple pour les cinéastes. Donc mon travail, il est de leur permettre de travailler. La deuxième mission, c'est la mission Malraux. C'est une mission de représentation, de programmation culturelle pour animer le lieu en tant que grande institution française à l'étranger. Et puis enfin, le partage du patrimoine. Donc entretenir ce patrimoine, le restaurer. La France dépense beaucoup d'argent pour entretenir ces lieux. On a d'ailleurs gagné en septembre dernier le prix du plus beau jardin d'Italie. Et pour entretenir ce patrimoine, il faut aussi le partager avec le public. Et donc, grâce à des visites guidées, à thème, nous recevons à peu près 90 000 spectateurs par an.
Alors, avant d'être nommée à la tête de la Villa Médicis, Muriel Mayette Holtz, vous avez été administratrice générale de la Comédie Française de 2006 à 2014. Comment ça s'est passé?
C'était passionnant. C'est d'abord une maison dans laquelle j'ai grandi, parce que j'y suis rentrée à 20 ans comme actrice.
Ouais.
Et je peux dire, c'est mon solfège à moi. Je suis née du plateau et je suis une artiste de ce solfège-là. Et comme j'ai toujours fait aussi parallèlement de la mise en scène, j'ai signé à peu près 45 mises en scène. Après, quand je dis je suis la femme de ce solfège, c'est que je la dirige comme un metteur en scène, ces institutions. Dans ma part d'artiste, plus que dans ma part de directrice, qui n'est en soi pas vraiment un métier.
Eh bien, très bien, merci d'être passée ce matin, Muriel Mayette. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, si vous n'êtes pas lève-tôt, habituellement. Une émission réalisée par Thomas Duterre et préparée avec Anaïs Isbert. Bonne journée, à très vite.